Chapitre 7. Ivan Petro travaille 7 jours sur 7, parce que la révolution représente tout pour lui. On a beau être le premier dimanche du mois d'avril, tout indique qu'il n'aura pas une minute de repos. Il vit à Sacramento où les techno-arcadiens disposent d'un important réseau au sein des instances dirigeantes de la Californie, un état particulièrement corrompu. Il est en train de dîner dans son restaurant italien préféré lorsqu'il reçoit, en même temps que des milliers d'autres Arcadiens, une série de textos détaillant l'incident du lac Tao impliquant Jane. L'un des messages contient une photo de la jeune femme prise à cette occasion, avec son déguisement du moment. Aucune équipe n'a pu être dépêchée sur place à cause du blizzard qui empêche les hélicoptères de décoller. Les routes, en revanche, sont praticables, bien que difficiles. Nul ne sait quel véhicule elle conduit, ni quelle direction elle a pris, mais il est probable qu'elle aura voulu quitter la région afin d'échapper à la tempête de neige. Si jamais elle a choisi d'emprunter la Highway 50, elle vient, sans le savoir, à la rencontre d'Ivan Petro. Ce dernier avale la dernière bouchée de sa saltimbocca et consulte la météo. Celle-ci lui apprend que la neige ne tombe plus après Riverton, que 30 km séparent de Placerville, la ville suivante qui compte tout au plus 10 000 habitants. Ivan vide son second verre de Chianti et s'abstient de commander la double ration de cannoli qu'il s'était pourtant promis de savourer en dessert. La nuit est tombée depuis plus d'une heure lorsqu'il arrive à Placerville, sur la piste de celle que l'on nomme le beau monstre. Ce dimanche soir pourrait bien être la soirée la plus marquante de son existence. On pourrait croire que le corps de Petro a été moulé dans une fonderie avant de prendre forme humaine. Ses dents sont aussi blanches et aiguisées que celles d'un cheval, son large visage et coupe rosée, comme s'il avait passé sa vie au contact d'une bise hivernale. Depuis l'âge de 11 ans, tout le monde le surnomme « la bête ». Ivan est une équipe de tueurs à lui tout seul. Il est probable que Jane descende dans des motels où elle s'inscrit sous une identité d'emprunt grâce à de faux papiers. Les principales chaînes hôtelières acceptent qu'on les règle en liquide, faute de carte de crédit. Mais c'est une pratique de plus en plus rare. Le plus sûr moyen de ne pas être remarqué consisterait pour Jane à descendre dans des établissements modestes d'une ou deux étoiles, où le paiement en liquide est couramment accepté. Placerville ne compte qu'une poignée de motels de ce type. Grâce à sa carte de la sécurité intérieure, Ivan n'aura aucun mal à obtenir les renseignements qu'il souhaite des réceptionnistes concernés. La chance joue un rôle de premier plan dans les entreprises de cette nature. Si Jane a traversé Placerville sans s'y arrêter, Ivan perd son temps, mais la chance lui sourit alors qu'il se dirige vers le troisième motel dont il a entré les coordonnées sur le GPS de son Range Rover. Il est arrêté à un feu rouge lorsque son attention est attirée par une silhouette féminine sortant d'une supérette. La femme traverse devant lui, un sachet à la main, et se dirige vers un motel situé à l'angle nord-ouest du carrefour. Avec sa coiffure en pétard et son maquillage gothique, elle ressemble à la photo de Jane prise au lac Tao. Il fait trop sombre pour qu'il puisse s'assurer qu'elle a un anneau dans le nez et porte du vernis à lèvres bleues, comme sur la photo. Mais elle a beaucoup d'allure et porte un blouson idéal pour quiconque souhaite se balader avec une arme. En outre, elle se déplace avec la grâce et l'assurance qui n'ont pas échappé à tous ceux qui ont croisé la route de Jane Hawke. Ivan la suit des yeux. Elle passe devant la réception et longe la coursive sur laquelle donnent les chambres. Le feu passe au vert, Ivan franchit le carrefour juste à temps pour voir la jeune femme se glisser dans la chambre 8. Le motel est loin de faire le plein, à en juger par les 4 véhicules isolés qui sont rangés sur le parking. Un Ford Explorer Sport, gris métallisé, est garé devant la porte de la chambre 8. Ivan fait demi-tour à la première occasion et se dirige vers un groupe de bâtiments situés juste en face du motel. Les immeubles sont des cubes crépis de blanc, dotés de faux volets et de rambardes en fer forgé censés leur donner du cachet. Une longue pergola aménagée au niveau de l'entrée de la cité abrite les véhicules des résidents, comme ceux des visiteurs, et Ivan y gare son Range Rover à l'abri des regards. L'Explorer stationne entre deux réverbères et Ivan n'a aucun mal à relever son numéro en s'aidant de ses jumelles. Il ouvre l'ordinateur installé sur la console du 4x4, accède au registre des immatriculations de Californie et entre le numéro du Ford. Celui-ci est enregistré au nom d'un certain Leonard Borland, disposant d'une adresse à San Francisco. Ivan lance l'application Google Street et constate que l'adresse en question correspond à un immeuble de 10 étages. Il est peu probable que Leonard Borland y soit connu. Sans même chercher à vérifier, Ivan se rend sur le site du service des permis de conduire. Il y trouve plusieurs Leonard Borland, mais aucun n'habite à la bonne adresse. On sait depuis un moment que Jane a réussi à se procurer des papiers de complaisance auprès d'un faussaire de génie capable d'accéder aux banques de données officielles et d'y entrer les coordonnées des prétendus propriétaires des documents qu'il fabrique, afin de donner le change en cas de contrôle routier. Ivan vient tout juste d'achever ses recherches lorsqu'il reçoit un appel galvanisant. Le couple à qui Jane Hawke avait confié son fils a été abattu à Borrego Springs. Le petit garçon n'a pas encore été localisé et une battue en règle est organisée dans les environs. Après avoir réfléchi à la situation pendant près d'une heure, Ivan finit par prendre une décision. Il n'a pas l'intention de demander des renforts, au risque de voir des hiérarques de la Révolution s'attribuer le mérite de la capture de Jane Hawke. La plupart de ces gens sont des vipères. Il est surprenant qu'ils ne se soient pas encore empoisonnés avec leur propre venin. Bien qu'il ait pour eux le plus grand mépris, il veille à les traiter avec respect. Il est toutefois conscient qu'il lui faudra changer son fusil d'épaule s'il entend progresser dans la hiérarchie. Il hait ses supérieurs précisément parce qu'ils n'appartiennent pas à leur caste. Il a appris à haïr autrui dès l'enfance. Il haïssait son père parce qu'il le battait et sa mère parce qu'elle ne le défendait pas. Sa haine s'est lentement métamorphosée en une rancœur noire jusqu'au jour, à 15 ans, où il a été assez grand pour faire payer son vieux avec les intérêts d'usage, avant d'instiller des remords à sa mère à coups de poing. Ce jour-là, il leur a tourné définitivement le dos. Ils ne lui ont jamais rien enseigné en dehors de la peur et de l'obéissance, si bien qu'ils n'ont jamais eu conscience de lui avoir inculqué la leçon de vie la plus essentielle de toutes. Le bonheur est lié au pouvoir sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de la puissance physique, de la connaissance, de l'argent ou de la domination politique. Ses parents sont de pauvres alcooliques pétris de ressentiments. Mais ils ne sont finalement pas différents de tous les Arcadiens qui ont veillé jusque-là à freiner sa progression au sein du mouvement. Il les hait tous. De toute façon, il a un excellent plan pour s'élever dans la hiérarchie de la Révolution. Le motel n'est pas l'endroit idéal pour s'emparer de Jane. Il risque d'attirer l'attention sur eux lorsqu'il la soumettra à un interrogatoire digne de ce nom. À condition de s'armer de patience, une meilleure occasion finira par se présenter. S'il parvient à l'obliger à parler, à lui révéler où se cache son gamin, il peut offrir en cadeau à la Révolution la mère et le fils. Le coffre du Range Rover est rempli de matériel de surveillance. Il choisit un émetteur équipé de la taille d'un paquet de cigarettes, en entre les coordonnées sur son GPS, puis traverse la rue. Le meilleur moyen d'accomplir ce genre de tâche est encore d'y aller au culot, comme si fixer un émetteur sur un véhicule était la tâche la plus naturelle du monde. L'appareil est vendu avec un sachet contenant une puissante colle époxy. Ivan l'ouvre à l'aide de son canif et colle l'émetteur sur l'un des pare-boues du Ford. Si un automobiliste quelconque a remarqué le manège d'Ivan, il ne s'en est pas étonné. L'opération terminée, Ivan regagne son Range Rover sans incident. Moins de 10 minutes se sont écoulées lorsque s'ouvre la porte de la chambre 8, laissant passer la femme, des bagages à la main. Il lui faut 2 voyages pour charger l'Explorer. Tout indique qu'elle est pressée. Ivan est sûr à présent qu'il s'agit bien de Jane Hawke. Il est probable qu'elle aura appris la mort de Gavin et Jessica Washington, à qui elle avait confié son gamin. Ivan la regarde s'éloigner. Il n'a pas besoin de la filer, puisque l'émetteur le renseigne sur chacun des mouvements de la jeune femme, sous la forme d'un point rouge qui clignote sur l'écran du GPS. Il lui accorde quelques minutes d'avance avant de démarrer. Jane Hawke a rejoint la Highway 50 et se dirige vers l'ouest, en direction de Sacramento.